Il est exactement 8h42, c'est donc l'heure du tour de table culturel du samedi matin. C'est parti. Pour ce tour de table culturel du samedi matin, qui est à poste? Il y a Nicolas Carreau, il y a Diane Chénouda, Mathieu Charrier et votre serviteur. Mes amis, bonjour.
Bonjour Bernard.
On commence avec vous, Nicolas Carreau. Dites donc, vous êtes en pleine période nouvelle, semble-t-il. Fin de confinement oblige. Oh, j'ai vu, il y a des librairies qui rouvrent. C'est super. Alors, vous êtes allé chercher loin, assez loin, il faut le dire, votre livre de la semaine, du côté d'Israël. Hein.
En Israël, oui. Il s'agit du recueil de nouvelles de l'écrivain Edgar Keret aux éditions de l'Olivier. Rien que le titre, on s'amuse. Incident au fond de la galaxie. Elles sont très drôles, très courtes, rarement plus de 10 pages, et il y en a 22. La première, par exemple, raconte l'histoire d'un homme canon. Enfin, au début, il est chargé de nettoyer les cages dans un cirque. Un jour, le patron vient le voir, il lui explique que son homme canon est ivre, complètement saoul au fond de sa caravane, et il lui propose pas mal d'argent s'il accepte de le remplacer au pied levé. Le type hésite un peu, et puis il a besoin d'argent et il a rien à perdre, alors il dit ok. On l'installe dans le canon, il fait pas trop le malin. Un clown sympa lui donne quand même un petit conseil en passant. Ce qui compte, c'est de relâcher ton corps ou de le contracter, l'un ou l'autre. Je me souviens plus très bien. C'est sympa quand même. Et un autre, juste avant d'allumer la mèche, lui demande s'il est sûr de vouloir faire ça en le prévenant que le précédent est à l'hosto avec 12 côtes cassées et pas du tout saoul dans sa caravane.
Mais c'est très encourageant tout ça. Est-ce qu'il s'en sort?
Vous lirez pour savoir, mais c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Il y a beaucoup de nouvelles à twist final. Vous savez, la dernière phrase qui retourne tout. On est souvent surpris et on rit beaucoup aussi. Mais il y a toujours une forme de poésie très belle. Dans une des nouvelles qui s'appelle La Nuit, par exemple, 2 pages, superbe. La nuit quand tout le monde dort. 4 paragraphes qui commencent tous par ces mots. Premier paragraphe, que fait la mère quand tout le monde dort? Deuxième paragraphe, que fait le père? Le père sort pieds nus sur le balcon, fumer sa cigarette et compter ses dettes. Il travaille comme un âne, il essaie d'économiser. Ensuite le fils, il rêve. Et dernier paragraphe, la nuit quand tout le monde dort, le poisson rouge sort de son aquarium et enfile des chaussons, il s'assoit sur le canapé du salon et zappe d'une chaîne à l'autre. Il aime surtout regarder les dessins animés, les films sur la nature et un peu CNN.
Excellent.
Voilà,
excellent.
Ça parle de l'absurdité du monde. Il y a de l'humour noir, mais aussi beaucoup de tendresse. C'est fabuleux. Edgar Keret, c'est un auteur culte pour beaucoup de gens. Moi, je ne le connaissais pas, je dois dire, avant de lire ce livre. Et j'ai vu depuis d'ailleurs qu'il avait écrit un feuilleton avec Mathieu Amalric, Carté diffuse en ce moment. Ça s'appelle L'agent immobilier. En tout cas, je peux vous dire que je ne raterai plus aucun de ses livres.
Celui-ci s'appelle « Incident au fond de la galaxie », signé Edgar Keret aux éditions de l'Olivier. Edgar, d'ailleurs je précise E-T et non pas E-D, c'est traduit de l'hébreu par Rosie Pinas Delpuech. Merci beaucoup en tout cas pour ce choix, Nicolas Carreau. Quant à vous, Diane Chénouda, vous souhaitez nous emmener encore ce samedi au théâtre ce soir, Diane, pour une pièce de boulevard absolument jubilatoire. Je peux en témoigner parce que je l'ai vue au théâtre. Ça s'appelle « Deux hommes tout nus ». C'est diffusé ce soir, assez tard, encore un sur France 2. C'est en partenariat avec Europe 1.
Oui, alors c'est une pièce écrite et jouée par Sébastien Thierry, flanquée de l'excellent François Berléand, qui joue un avocat. Alain Kramer se réveille un beau matin, tout nu dans son canapé lit, avec à ses côtés l'un de ses assistants fiscalistes. Nu comme un ver, lui aussi. Les deux hommes, sous le choc, ne comprennent rien, mais rien à ce qui leur arrive, lorsque Catherine, la femme de Kramer, jouée par la délicieuse Isabelle Gélinas, fait irruption dans la pièce.
Que vous faites chez moi?
Justement, on ne sait pas.
Je ne comprends rien de ce que vous me dites. Hein.
Bon, sois un petit peu clair toi aussi, hein, Catherine. Si tu poses des questions, il faut qu'on les comprenne. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir exactement?
Ce que vous faites tous les deux nus dans mon salon.
Ben voilà, ben, ça c'est une question claire. Quoi? J'ai quand même le droit de ramener du travail à la maison. Bon.
Voilà, Kramer.
C'est extrêmement drôle. Hein. Moi, j'étais boyauté d'un bout à l'autre.
Ah oui, non, mais c'est hilarant cette pièce. C'est une farce. Kramer, pour sauver son couple, invente n'importe quoi. Il s'enfonce dans le mensonge, dans cette spirale infernale. Et le suspense, le mystère est total. Hein. Où est la vérité? Qui est Kramer? Le sait-il lui-même qui semble avoir perdu la mémoire? Ou alors est-il dans le déni? Eh bien, et si la vérité était dans son inconscient? Voilà,
en fait,
c'est tout ça.
C'est une sorte de Phédo moderne avec son lot de folie et d'absurdité, quoi.
Ah bah oui, on a tous les ingrédients du vaudeville, quiproquo, calembour, mauvaise foi, stratégie. stratagèmes ridicules, mais il y a aussi du tragique, hein, avec un homme pris en flagrant délit d'un acte qu'il n'aurait pas commis, qui finira par douter de sa sexualité. Alors, plus qu'une pièce sur l'homosexualité, c'est d'abord une pièce sur la vérité dans le couple, sa propre identité, des dialogues percutants, servis par des acteurs tous prodigieux, un Berléand qui joue toutes les nuances de l'homme perdu et pitoyable, mais infiniment touchant.
Voilà, ça s'appelle « Deux hommes tout nus », c'est très bien, c'est une farce hilarante à voir ce soir à 23h20 sur France 2 et c'est un événement européen. Merci beaucoup Diane Chenouda, à tout de suite pour la suite de ce tour de table culturel cinéma en VOD bien sûr, Blade Runner, mais pas l'original, hein. La suite ou un avatar diront ceux qui n'ont pas aimé, c'est avec Mathieu Charrier et moi j'ai un formidable polar écossais à vous conseiller, à tout de suite. Europe 1. La suite de ce tour de table culturel, d'abord avec vous Mathieu Charrier, vous souhaitez nous conseiller un film de science-fiction que vous avez bien aimé, voir ou revoir en VOD, donc Blade Runner 2049.
Suite de Blade Runner, évidemment, sorti 35 ans plus tôt, signé Ridley Scott, ça avait révolutionné l'univers de la science-fiction. Alors à l'époque, il situait son histoire dans le futur en 2019, à Los Angeles, donc l'année dernière finalement. Ridley Scott s'était en partie trompé, hein, les voitures ne volent toujours pas, on n'est pas encore parti explorer les planètes voisines. En revanche, il avait vu juste sur le fait que l'humain est menacé notamment par diverses formes de robots.
Et c'est ce qu'on retrouve donc dans Blade Runner 2049.
En partie, oui, Ryan Gosling est K, un androïde Blade Runner, donc un robot humain en quelque sorte, chargé de chasser les réplicants, sont d'autres robots pour faire simple, qui ont l'apparence humaine, parmi lesquels son aîné, joué par Harrison Ford, ça c'est la trame du film, la partie suspense on va dire, mais ce qui est particulièrement intéressant, moi je trouve en tout cas, c'est la forme et le fond. La forme d'abord, on est dans une espèce de torpeur quand on regarde ce Blade Runner 2049, suite à tous les désastres écologiques et militaires, on a une impression de crépuscule permanent, accentuée par la magnifique photo du film. Les seules protéines que nous mangeons, ce sont des vers élevés sous serre, les enfants travaillent dans des usines, et le bois, la matière, vaut une fortune parce qu'il n'existe plus finalement. Donc, il y a dans ce monde de 2049 beaucoup de références au passé, explique Denis Villeneuve, le réalisateur.
J'adorais dans le premier film qu'on sente l'influence du passé, on sent les traces du passé. Il n'y a pas de téléphone cellulaire dans Blade Runner, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de Google. Donc, je me suis surpris parfois en faisant le film à sentir que je faisais un film d'époque plus qu'un film de science-fiction. Donc là, il a fallu comme élaborer aussi un univers parallèle, alternatif, qui est celui de Blade Runner, qui est parce que je pouvais pas refaire, je pouvais pas, il y a pas de Steve Jobs dans mon film. Voilà.
Quant aux voitures, certes elles volent, mais elles sont, figurez-vous, de marque Peugeot, qui a oui. Sûrement dû au passage payer très cher pour ce placement de produit.
Je me souviens, j'avais été tout à fait sidéré par
Peugeot.
Ça. Alors pour la forme du film, on a bien vu que ça vous a plu. Est-ce que sur le fond aussi?
Oui, parce que ce qui est intelligent, c'est que dès le début, K, qui est donc Ryan Gosling, va devoir exécuter, prélever, comme ils disent, un homme, ce qui va l'amener à s'interroger lui-même sur sa propre nature. Il est sous le joug d'une chef sadique qui travaille pour un milliardaire qui, en gros, contrôle la création humaine sur Terre, rien que ça. Et son seul plaisir, c'est une jolie créature, mais totalement numérique. Donc on va le voir, petit à petit, reprendre les choses en main, prendre conscience de toutes ces choses. On est à ses côtés. Et je vous assure qu'au bout des 2h40, tout de même, que dure le film, on n'a pas envie d'en sortir. On est véritablement hypnotisé.
Oui, c'est vrai. C'est un film assez hypnotique, Blade Runner 2049. Et puis voilà, si on aime celui-là, c'est aussi l'occasion de voir et revoir l'original, bien entendu, de Ridley Scott, qui est impérissable et immortel. Quant à moi, j'ai un super polar écossais que j'ai raté là quand il est sorti au début de l'année, mais bon, je me rattrape. À la longue liste des très très bons auteurs écossais de polar, donc il faut désormais ajouter le nom d'Alan Parks, inventeur d'un magnifique personnage de flic. Ce flic s'appelle Harry McCoy. C'est lui qui, le 10 février 73, monte sur le toit d'un immeuble de Glasgow pour constater que Charlie Jackson est bel et bien mort. Il a une balle dans la tête, mais il a aussi deux mots gravés au couteau sur le torse. Bye bye. Or, Charlie Jackson n'est vraiment pas n'importe qui. D'abord, c'est le nouvel attaquant du Celtic, l'un des deux grands clubs de foot de la ville. Et ensuite, c'est l'amant et futur époux, dit-on, d'Hélène Scobie, ravissante fille unique du plus gros mafieux écossais. Mafieux dont le garde du corps, Connolly, en plus d'être un dangereux sociopathe, est fou amoureux de la belle Hélène. Il endosse donc, Connolly, le rôle de suspect numéro un, d'autant qu'il a pris la tangente. Il est introuvable et il va le rester pendant presque toute l'enquête de McCoy et de son jeune adjoint Watty, qui est tout son contraire. Il est propre sur lui, il ne fume pas d'herbe, il supporte, lui, la vue du sang, il ne se saoule pas avec les truands, il n'a pas de pulsion suicidaire et il n'est pas abonné au cauchemar de sa petite enfance. Mais McCoy, flic déglingué s'il en est, a des excuses. beaucoup d'excuses même, que je vous laisse découvrir en lisant ce magnifique polar gris-cendre, poisseux et glacial, exactement comme Glasgow en hiver en fait, et aussi, aussi profondément humain, comme Glasgow, en toute saison. Ça s'appelle « L'enfant de février ». C'est la deuxième enquête d'Harry McCoy. La première, c'était « Janvier noir ». Celle-là aussi, je l'avais loupée et je le regrette énormément. Je sais donc ce qu'il me reste à faire. « L'enfant de février » et « Janvier noir » d'Alan Parks, tous les deux sont disponibles chez Rivage Noir. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un excellent week-end de confinement. Amusez-vous bien et cultivez-vous bien. Salut.
Merci Bernard, salut. Bon week-end à tous.